de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur la modélisation des épidémies. Comment cette discipline habituellement discrète, basée sur l'étude des fonctions exponentielles et des échelles algorithmiques, s'est-elle retrouvée en première ligne, sur le front de la lutte contre le Covid? Jusqu'où peut-on anticiper, projeter le taux de reproduction d'un virus et l'évolution d'une pandémie? À partir de quels paramètres, avec quels outils mathématiques, épidémiologiques, mais pas seulement? Voilà ce que nous allons chercher à comprendre avec notre invité, Vittoria Colizza, physicienne de formation qui s'est spécialisée dans la modélisation des épidémies, lauréate de nombreux prix scientifiques prestigieux, à la tête d'une équipe de recherche à l'INSERM. C'est son expérience d'autres maladies infectieuses émergentes comme MERS, Ebola ou le chikungunya qui l'ont alertée dès décembre 2019. Depuis, sur le front et sans relâche, Vittoria Colizza et son équipe produisent des modèles très réaliste, parmi les plus réalistes qui soient, à destination des décideurs évidemment, et pas seulement, ouvert à tous, parce que ça nous concerne tous. Autour de la question, jusqu'où peut-on modéliser les épidémies? Bienvenue. Bonjour Vittoria Colizza.
Bonjour.
Merci d'être en direct, en ligne avec nous. Depuis votre bureau à l'INSERM, malgré un emploi du temps que je sais plus que chargé, on peut dire, Vittoria, que vous êtes vraiment sur le front depuis plus d'un an maintenant, à la tête de votre équipe de recherche donc à l'INSERM, spécialisée dans la modélisation des épidémies, à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Vous vous êtes tout de suite, Vittoria Colizza, j'ai envie de dire avant tout le monde, engagée presque corps et âme dans cette modélisation de ce qui n'était pas encore une pandémie, forte de votre expérience d'autres maladies virales, infectieuses, émergentes, comme Ebola notamment, MERS ou Chikungunya. Quand et comment avez-vous ressenti, enfin qu'est-ce qui vous a alerté dès décembre 2019 autour de ce qu'on n'appelait pas encore la Covid?
Oui, c'est vrai, c'était le 31 décembre 2019. J'ai reçu une alerte de PROMED, un système d'alerte international qui a vraiment l'objectif d'alerter sur des événements liés à la santé et qui collectionne, recueille tout ça, toutes ces informations autour du monde. Il avait cette alerte d'une maladie, d'une infection respiratoire aiguë en Chine. Alors, c'était plus ou moins, c'était pas plus que ça. Hein. Et là, bien évidemment, c'est plutôt, voilà, c'est pas seulement le cerveau, mais c'est aussi l'organisme, le corps qui va revivre ce qu'on avait vécu pendant la pandémie grippale de 2009, en termes, bien évidemment, de charge de travail, sensations et difficultés qu'on aurait devant nous. Alors, c'est à ces moments, puis j'ai suivi un peu les premières deux semaines du mois de janvier, quand j'ai vu qu'il y avait des importations des cas dans d'autres pays, en dehors de Chine, c'est là que j'ai décidé de tout engager, tout mon groupe sur cette direction de recherche.
Alors, dans votre équipe, il faut dire que vous avez été parmi les premiers à publier des estimations justement sur la probabilité de l'arrivée et de l'amplification du virus de la Covid et de l'infection en Europe. Vous avez également, alors avec une équipe internationale, évalué le risque pour le continent africain. À l'époque, vous aviez, enfin, c'est pas prédit, hein, mais vous aviez modélisé ce qui s'est révélé juste, c'est-à-dire l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, les premiers touchés sur le continent. Est-ce que c'est votre expérience des autres maladies infectieuses, de la modélisation des autres maladies infectieuses, vous avez parlé de la grippe notamment, mais aussi d'Ebola, qui vous ont permis de faire tout de suite des modèles qui se sont tout de même révélés assez justes, ou en tout cas qui nous donnaient les bonnes tendances?
Oui, tout à fait, parce que nous, on avait déjà une expertise construite depuis des années sur le risque du voyage international dans l'importation des cas de maladies émergentes. On avait travaillé sur SRAS, la pandémie grippale en 2009, Ebola et d'autres MERS aussi, d'autres coronavirus. Et là, à partir de ces algorithmes qu'on avait déjà développés, et puis mise à jour, bien évidemment, sur la situation spécifique pour cette infection et aussi sur les voyages aériens, les conditions qui sont changées au cours du temps avec, par exemple, l'arrêt de certains voyages, la fermeture des aéroports en Chine et puis suivi dans d'autres pays. On a été capable de répondre assez rapidement sur ces questions d'importation.
Et alors, ça a été assez étonnant, assez bluffant. Vous avez parlé d'algorithmes, on va parler aussi d'exponentiel. On va revenir sur, finalement, techniquement, comment vous faites. Mais j'ai quand même envie de vous poser une question assez personnelle, Vittoria Golitsa. Vous êtes physicienne de formation, très brillante physicienne. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dirigée vers la modélisation, très utile en science, mais la modélisation des maladies infectieuses, ce qui n'est pas rien, enfin, ce qui vous met quand même vraiment en première ligne et qui est un investissement de la chercheuse que vous êtes, mais en entier, hein, on dit bien, vous êtes vraiment sur le front et sur le pont depuis plus d'un an. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce chemin-là, la physicienne que vous êtes ?
Moi, j'avais fait ces doctorats, effectivement, en physique théorique. Alors, déjà, il faut dire que tous les éléments qui sont nécessaires pour construire des modèles, les valider, les intégrer, les nourrir avec les données et puis faire des études d'évaluation a posteriori sont des choses qui sont fondamentales dans la physique théorique parce qu'on travaille tout le temps avec des modèles et des données. Bien évidemment, le sujet était le parcours ordinaire. Et je me suis intéressée parce que pendant mon doctorat, je me suis rendu compte que certaines techniques et approches qu'on a dans la physique théorique, surtout physique statistique, l'étude de systèmes complexes, l'étude des réseaux, des contacts, ont un rôle très important dans les épidémies. Si on pense par exemple au contact, aujourd'hui il est très clair, après d'un an de Covid, on sait très bien qu'on doit réduire ces contacts. Là, il y a effectivement une science qui s'appelle science des réseaux et qui étudie tout le temps les contacts entre les personnes, si ça change ou pas, les personnes qui ont plus de contacts par rapport aux autres, et comment toutes ces relations vont changer, vont impacter la propagation du maladie. Donc je pense que d'un point de vue de la physique, les parties sur modélisation, phénomène de diffusion, qui sont notamment très courants aussi, très, très communs en physique théorique aussi, et les phénomènes qui sont liés plus concrètement aux données de type contact et mobilité sont vraiment des éléments clés pour l'étude des maladies infectieuses. Alors c'est pour ça, voilà, j'ai venu avec cette expertise.
Vous aviez les outils, vous aviez cette expertise, vous aviez les clés, mais pourquoi et comment avez-vous décidé de vous orienter dans ce domaine-là qui est très troublant, j'ai envie de dire, enfin qui vous implique plus que d'étudier peut-être des bancs de poissons ou une autre circulation de fluides ou de personnes vivantes en physique théorique.
J'ai eu toujours un peu ça pourrait sembler un peu paradoxal comme physicienne théorique, mais j'ai eu toujours ces désirs et cette intérêt et passion pour répondre à des questions très concrètes et qui pouvaient avoir aussi un intérêt dans l'échelle temporelle de notre vie et même plus court que ça. Donc dans le cadre d'une pandémie, c'est très très court comme réponse. C'était ça en gros. Alors j'ai trouvé cet intérêt et les maladies infectieuses un phénomène qui est assez complexe d'un point de vue théorique et donc qui les rend aussi challenging mais très intéressant à aborder et qui s'est mélangé parfaitement avec tous les outils, l'expertise que j'avais construit grâce à mon doctorat.
Vous avez relevé le défi, donc autour de la question comment modéliser les épidémies. Alors pratiquement, comment travaillez-vous, Vittoria Golitsa ? Qu'est-ce qui est le plus compliqué ? Première question pratique, scientifique, soulevée par le chercheur en informatique Roberto Di Cosmo. Alors lui, il est investi dans un autre genre de sujet essentiel de science ouverte aussi, le projet Software Heritage de Bibliothèque universelle des codes sources et des logiciels libres. Voici sa question, elle est pour vous, Vittoria.
Quelle est la partie difficile dans sa modélisation ? C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'elle a besoin de beaucoup de puissance de calcul, est-ce qu'elle a besoin de beaucoup de données, ou est-ce qu'elle a juste besoin d'identifier les quelques facteurs clés qui expliquent l'évolution des choses ? Où est la difficulté ? Évidemment, je ne veux pas dire que c'est simple. Au contraire, c'est compliqué. Mais parmi les difficultés, il y en a de plusieurs natures. Donc, quelle est la nature de la difficulté plus profonde qu'elle trouve dans ce type de simulation ?
Votre réponse, Vittoria Colizza.
Alors, je pense que ça dépend du moment aussi, de la phase de la pandémie. Mm-hmm. Si on part tout au début, on a énormément d'incertitudes sur les connaissances de maladies. S'il s'agit bien de sûr. Maladies émergentes, on ne connaît pas vraiment les détails, par exemple, la progression de l'infection chez la personne, s'il va créer une forme sévère ou pas, une maladie, oui. Le taux de transmission. Voilà, la durée d'incubation, tous ces types de paramètres sont des paramètres qu'on va connaître, qu'on va estimer sur les terrains, à partir de données des terrains, de façon assez rapide le premier mois, les premiers deux mois, et puis de façon continue avec les temps. Et je pense que pour une pandémie comme le Covid-19, une fois qu'on a appris tous ces éléments, qui sont des éléments clés pour une pandémie, pour la modélisation, je pense que la chose qui reste la plus difficile à suivre, même un an avec un an de pandémie, c'est le comportement humain. Parce qu'on se trouve devant nous une pandémie qui a tout basculé, a changé nos comportements et continue à le faire. Et c'est pas seulement une réponse à des mesures restrictives qui sont mises en place. Ça, c'est d'un côté de la partie plus facile à modéliser, parce qu'on a aussi des expériences du passé. Mais c'est plutôt vraiment la réponse un peu plus spontanée. Par exemple, sur la recommandation de faire du télétravail, est-ce que les gens vont suivre ou pas ? Est-ce qu'il y aura une certaine fatigue avec les temps ? Donc, après quelques semaines, est-ce que les gens vont abandonner ou pas ? Est-ce qu'il y aura aussi une réponse, par exemple, à mettre en place, à renforcer chacun d'entre nous les mesures barrières parce qu'on ressent une communication qui est un peu anxiogène, qui montre qu'il y a une difficulté à gérer la pandémie ces derniers mois. Et voilà, toutes ces choses, on n'a pas encore assez de données et assez aussi d'expériences dans les passés qui pourraient nous aider à comprendre ça.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous vous nourrissez, c'est incroyable, il faut que vous rentriez dans ces machines et grandes puissances de calcul, mais énormément de données, énormément d'informations, dont des données comportementales qui sont peut-être pas très rationnelles, et en fait, vous vous inspirez de ce qui s'est passé pour nourrir la suite, enfin pour améliorer vos prédictions, il faut que vous teniez compte de tout.
Oui, tout à fait. Alors, le comportement en termes, il y a une mesure clé qui est vraiment le nombre de contacts. Le nombre de contacts change parmi chaque individu, bien évidemment, mais on a des données avant la pandémie qui nous aident à comprendre, par exemple, comme le taux des contacts peut changer par tranche d'âge. Il y a les adultes, les personnes les plus âgées, il y a des contacts plus forts entre, par exemple, les enfants et leurs parents. Ça semble tout assez raisonnable et compréhensible, mais on a des données qui nous aident à les quantifier de façon plus précise. Et puis, si on a une pandémie grippale comme celle de 2009, dans ces conditions, après un premier temps, il n'y a pas vraiment de forts changements de comportement. Donc, on peut rester sur une hypothèse où on peut utiliser ces contacts qui avaient été collectionnés hors période pandémique. Mais dans les cadres du Covid-19, on se trouve dans des conditions qui sont complètement différentes. Les contacts changent tout le temps. Et avec les contacts aussi, la mobilité. Mobilité qui nous aide. On a des contacts, par exemple, des collaborations en cours avec certains opérateurs, mais il y a aussi les données de Google qui sont montrées, qui sont disponibles publiquement. Il y a les données de Facebook et qui nous aident à comprendre et à caractériser dans les temps tous ces changements de comportement qui sont importants pour la propagation de l'épidémie.
Et c'est
alors
vraiment...
Alors que si on n'a pas une expérience dans les passés comme le Covid-19 qui pourrait nous informer sur comment les personnes vont changer leur comportement, la seule chose qu'on peut faire, effectivement, est regarder cette dernière année historique, regarder certaines conditions, et puis on pourrait se dire, par exemple, d'aujourd'hui, dans les prochaines semaines, si les personnes ne changent pas de comportement, on pourrait se retrouver dans cette condition.
Oui, c'est ça. Vous pouvez vous projeter. Il faut vraiment en tenir compte de tout, puis vous avancez, on y reviendra, hein, parce que vous, vous qui êtes une chercheuse, là, vous êtes vraiment en temps réel. Enfin, vous devez avancer en temps réel, tenir compte de tout, d'un nombre de paramètres absolument insensés autour de la question comment modéliser les épidémies, comment modéliser le Covid. Nouvelle question soulevée cette fois-ci par un mathématicien et logicien, Jean-Paul Delahaye.
L'expérience que j'ai de la modélisation m'a toujours confronté à un problème que je ne sais pas très bien résoudre et que j'imagine que tous les gens qui font de la modélisation rencontrent, c'est celui du nombre de paramètres. Parce que quand on veut calquer un phénomène naturel, donc on peut le modéliser de telle façon, de telle autre façon, et on peut introduire plus ou moins de paramètres. Et si on introduit beaucoup de paramètres, ensuite on pourra fixer les valeurs de ces paramètres de manière à ce que ça ressemble beaucoup au phénomène qu'on veut simuler, qu'on veut représenter. Mais malheureusement, si on a choisi beaucoup de paramètres, ça sera assez facile de le faire correspondre. Et d'une certaine façon, ça sera une forme de tricherie. Et donc, on ne peut pas s'interdire d'utiliser des paramètres, mais il ne faut pas en mettre trop parce que c'est quelque chose qui, à ce moment-là, risque de fausser les résultats. Et alors, comment traiter ce problème du nombre de paramètres dans les modèles ?
Avez-vous la réponse, Vittoria Colizza ? Parce qu'on l'a compris, vous avez un nombre de paramètres insensé qui change tout le temps, en plus, à réintégrer dans vos modèles.
Oui, et effectivement, ça c'est un aspect clé de la modélisation. Alors déjà, il faut comprendre que la modélisation, et la personne qui a posé la question l'a bien expliqué, la modélisation n'est pas la réalité. Donc quand on fait un modèle, on veut reproduire la réalité, mais en tenant compte des ingrédients clés. Donc ça veut dire que bien évidemment, il y aura d'autres ingrédients qu'ils ne considèrent pas.
Oui, il faut en laisser de côté.
Exactement, il faut les mettre à côté. Donc c'est une représentation synthétique de la réalité qui tient compte des ingrédients les plus importants. Alors, et ces ingrédients les plus importants pourraient être soit des données, soit des paramètres. Donc les données sont par exemple sont les données de mobilité, les données des contacts. Ça, on a les données, donc on les intègre directement dans les modèles. Et puis on a des paramètres qui on doit garder sur un nombre très très limité, effectivement, pour avoir les contrôles des résultats de ces modèles et de ne pas tricher, comme la personne qui a posé la question a dit. Alors, on fait un exemple. Il y a quelques semaines, on avait fourni, par exemple, des projections pour la suite à cause de la trajectoire épidémique, à cause de la présence de variants.
Oui.
Et c'était avant les vacances scolaires. Et parmi les limites de ces modèles, on avait bien expliqué dans notre rapport qu'on ne considérait pas les vacances scolaires et on ne considérait pas le météo. Alors que, bien évidemment, il y avait beaucoup de personnes qui nous demandaient « mais non, mais il faut parce que ce sont importants ». Oui, on sait que c'est important. Mais alors, pour les météos, on n'a pas encore des certitudes sur le rôle du météo sur la transmission. Et là, il y a énormément des études d'aujourd'hui, mais qui sont aussi en contradiction entre eux. Et donc, c'est difficile pour nous de faire un choix. Donc, il y a des connaissances qui ne sont pas encore robustes, assez robustes pour nous.
Pour les inclure dans vos modèles, j'ai compris. Oui.
Exactement. Et l'autre question est en question, effectivement, les vacances scolaires. On peut les inclure, mais à chaque fois qu'on a eu des vacances scolaires, par exemple les vacances de la Toussaint, on s'est retrouvé au début dans la croissance de la deuxième vague. On était très proche d'un confinement, on venait de mettre un couvre-feu. Donc on ne peut pas reprendre cette expérience, donc les estimations qu'on avait faites pendant ces vacances scolaires, pour les remettre dans les vacances scolaires du mois de février, qui notamment vont changer, donc vont changer les comportements, les personnes ont une autre perception du risque, et ça va impacter l'épidémie. Alors on pourrait les mettre, mais une fois qu'on les met, on n'a pas effectivement, on a trop d'hypothèses, ce sont des hypothèses incertaines, et donc on n'a pas le contrôle sur les résultats. C'est mieux de, parfois, c'est mieux de ne pas mettre un ingrédient en plus, un paramètre en plus, et être bien consciente, par contre, des limites.
Et ça se décide, Vittoria Colizza, enfin évidemment c'est votre métier, vous êtes chercheuse, ça se décide, parce que là vous êtes en plein dedans et obligé de décider très vite, ça se décide grâce à votre expérience, au fond vous savez, et vous vous réunissez à plusieurs pour décider ça on le met, ça on le met pas, pour essayer d'être vraiment de coller au plus près, vous n'êtes pas du modèle possible et de la réalité possible.
Oui, au final, il n'y a jamais de recettes exactes déjà préétablies parce que ça dépend pas seulement de la maladie, de l'infection, de l'épidémie, mais aussi de la phase dans laquelle on se trouve. Et puis des types d'approches. Mais surtout, ça dépend de la question. Donc, par exemple, si on veut étudier la propagation spatiale, on a forcément besoin de d'inclure la mobilité. Ça, c'est assez clair. Mais si on veut, par contre, cibler sur un certain territoire et, par exemple, comprendre si ces confinements pendant les week-ends est efficace ou pas, peut-être la mobilité avec les autres départements va être négligeable, va être un élément qu'on pourrait mettre à côté ou évaluer si on peut le mettre à côté. Voilà, il y a tous ces éléments. Les choix qui sont faits sont des choix qui, après, sont toujours évalués a posteriori. Et même dans le même... Même dans la même étude, on fait des choix et puis on fait des analyses de sensitivité. Donc ça veut dire on va inclure d'autres paramètres, on va voir ce que ça donne, si ça change ou pas, si ça change fortement ou pas. À travers cette analyse, on peut identifier les éléments qu'on n'a pas, par exemple, inclus ou qu'on a inclus et sur lesquels on a un peu d'incertitude et évaluer si cette incertitude va complètement changer nos résultats. Ou si, par contre, cette incertitude n'est pas un problème parce que les résultats vont rester stables, même si on ne connaît pas très, très bien un élément.
C'est complexe. Hein. On se rend bien compte à quel point c'est complexe, à quel point vous devez finalement constamment vous remettre en question, hein, humilité et doute obligatoire autour de la question jusqu'où modéliser la pandémie, comment comprendre ce qui se cache derrière les chiffres, derrière les paramètres. On aura tout à l'heure aussi l'éclairage d'une autre chercheuse qui essaye de modéliser sur le continent africain. Elle s'appelle Yvonne Bourou et on verra que c'est pas simple non plus. Mais ça sera après avoir écouté votre choix musical, chère Victoria Kolidza. Car vous êtes aussi, quand vous en avez le temps, un peu roqueuse sur les bords, et ça n'est pas pour nous déplaire. Vous avez choisi de nous faire découvrir le groupe Oath, Larceny, avec un titre qu'on a envie de vous renvoyer, Men on a Mission, sur RFI, pour une Woman on a Mission sur RFI.
My jeans are torn, sweat coming through my shirt. Keep pushing even though it hurts. I'm chasing what I know is true. There's nothing that I would not do. When everyone around me drops, I'm never gonna ever stop. I won't waste another minute. No, I won't. I'm a man on a mission.
Men on a Mission. Merci pour ce choix musical, Victoria Kolidza, du groupe Oath, Larceny sur RFI. Ça déménage, ça pulse, et puis ça dit quelque chose aussi sur la mission de l'homme et de la femme que vous êtes, Victoria Kolidza.
Ah oui, tout à fait. I won't waste another minute. Je ne veux pas gâcher une autre seconde pour cette mission. Je pense que voilà, une pandémie de ce type est sans doute une mission, peut-être la mission aussi d'une vie scientifique. Hein.
Et vous êtes en plein dedans. Hein. Vous en êtes au cœur, hein, à la tête de votre équipe de recherche INSERM, une équipe de recherche donc consacrée et spécialisée dans la modélisation des épidémies en général. Vous êtes en première ligne sur le front du Covid. Vous y consacrez votre vie, votre temps, hein, on peut le dire, depuis plus d'un an, autour de la question jusqu'où peut-on modéliser les épidémies. Pourquoi effectivement c'est si essentiel de ne pas perdre une minute? et avec quels outils, forcément mathématiques, mais pas seulement. Alors parfois, nous, dans le grand public, puis j'ai envie de dire même nos dirigeants, nos décideurs, ne comprennent pas bien ce qui se joue ou n'écoutent pas bien ce que vous leur dites. Pour que nous tous, nous comprenions bien ce qui se joue, justement, je propose de répondre à la question, la proposition tout à fait honnête du grand mathématicien Étienne Gys, histoire de nous remettre les choses au clair.
Il y a une question qui m'inspire et qui m'agace avec beaucoup de journalistes. C'est l'usage du mot exponentiel qui est totalement détourné. Les gens pensent exponentiel, ça veut dire rapide. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être un jour expliquer tranquillement ce qu'est une croissance exponentielle. Et là, le sait bien, bien sûr. On dit oui, c'est pas encore exponentiel. C'est des gens qui n'ont rien compris à ce que c'est que l'exponentiel.
Victoria Colizza, à vous de nous expliquer, je ne sais pas si une bonne fois pour toutes, mais qu'est-ce que c'est qu'exponentiel et qu'on ne peut pas être un peu exponentiel? Voilà, expliquez-nous ce que c'est.
C'est devenu synonyme de rapide, c'est tout à fait vrai.
Ça, hein,
et c'est pas, et c'est pas ça, c'est bien pas évidemment, ça. D'un point de vue mathématique, une loi exponentielle est très très claire. Et on parle par exemple, on prend l'hypothèse de regarder le nombre de cas. Alors, si on a une loi exponentielle, ça veut dire que le nombre de cas va doubler chaque période de temps fixée. Donc, on fait une autre hypothèse, que ce nombre, par exemple, dans la première vague, le nombre de cas doublait chaque 3 jours. On fait quelque chose de plus simple pour comprendre. Un nombre de cas qui double chaque semaine. Ce n'est pas la situation actuelle, juste pour bien expliquer,
parce que ça
va très très vite. C'est juste un exemple pour les chiffres. Alors, ça veut dire que si on part, par exemple, avec 1000 cas la première semaine, la deuxième semaine, on aura 2000, parce qu'on va doubler. La semaine d'après, on aura 4000, parce qu'on va doubler. Et après, quatrième, 8000. À la cinquième semaine, on aura 16000. Donc, vous voyez, en 5 semaines, on est parti de 1000 cas. Si on double toutes les semaines, après juste 5 semaines, on se trouve avec 16 000 cas. C'est énorme.
C'est énorme. Alors, ce qui veut dire que, du coup, nos politiques sont toujours, qu'on est toujours, en retard par rapport à ça. Quand c'est exponentiel, on ne peut pas faire, enfin, ou alors si on fait la politique qu'il faut, il faut calculer et prévoir l'exponentiel, justement.
Et alors, il y a effectivement un problème de compréhension qui a été bien étudié dans la science. Il s'appelle biais cognitif pour les lois exponentielles. Il y a des études de psychologie et des sciences cognitives qui montrent que notre cerveau, même parfois le cerveau des scientifiques, n'est pas capable vraiment de comprendre. On n'a pas la sensibilité, un peu instinctive, si on peut dire, de comprendre cette croissance exponentielle. On est très à l'aise avec une croissance linéaire.
Mais si on
refait le même exercice d'avant, en croissance linéaire, si on part avec 1000 cas et on va ajouter, par exemple, 1000 cas chaque semaine, après 5 semaines, on se retrouve avec 5000 cas. 5000 au lieu de 16000.
C'est donc ça. On peut l'appréhender, mais 16000, on n'y arrive pas. Enfin, l'exponentiel,
exactement.
On n'y arrive pas.
Et alors, la problématique n'est pas seulement d'être capable de le comprendre. Et ces études eux-mêmes, elles montrent que c'est plus facile d'écrire sur un tableau ces chiffres de croissance exponentielle plutôt que montrer, par exemple, des graphiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi récemment sur les Covid. Et la grosse difficulté est qu'avec une loi qui est effectivement rapide, hein, parce qu'il y a cette croissance qui va doubler chaque période de temps fixée, alors que dans la gestion, ça crée énormément de problèmes parce que on part tout le temps de mesures qui sont proportionnelles à la situation. Mais effectivement, les mesures proportionnelles à la situation sont des mesures qui nous permettent de gérer une croissance linéaire parce que c'est proportionnel à cette situation. Ça ne va pas changer
énormément dans les futurs. Mais pas une croissance exponentielle.
Exactement. Alors, avec une croissance exponentielle, on doit avoir des mesures qui sont proportionnées à ce qu'on voit dans 2, 3, 4 semaines. Et c'est pour ça aussi tout l'enjeu de l'utilisation de modèles est que nous aide à comprendre, au moins à réfléchir autour de certaines tendances qu'on pourrait avoir d'ici à 2, 3, 4 semaines.
C'est ça. Il faut vraiment être sur un autre temps, enfin, sur un autre temps que le temps de nos politiques. Par exemple, on vous a vu, hein, d'ailleurs, vous êtes souvent, on vous a vu avec notre ministre de la Santé, Olivier Véran. Comment faites-vous pour faire passer, parce que vos travaux, ils vont directement à nos dirigeants, comment faites-vous pour les faire passer? Est-ce que vous êtes critique vis-à-vis de ce qu'ils en font, vis-à-vis des politiques, Victoria Colizza?
Alors, on reste toujours dans l'alléchant scientifique. Mm-hmm. Mais c'est vrai que dans nos études, on est aussi assez clair. Et on l'écrit, bien évidemment, parce que ça fait partie de la science. Surtout si on parle de mesures de contrôle, à travers les évidences de modélisation, on fait plusieurs hypothèses et on peut montrer, par exemple, ce que nous, on s'attend qui pourrait marcher, ce qu'on pourrait s'attendre qui ne marcherait pas ou qui a peu de probabilité de marcher. Et tout ça est toujours communiqué en termes de probabilité, en termes d'intervalle de confiance. Et c'est pas seulement parce qu'on a des incertitudes qui restent dans notre connaissance de la pandémie. Il y a ce qu'on disait auparavant, il y a des incertitudes aussi sur le comportement des personnes qui va jouer un rôle très important. Donc on doit rester dans des fourchettes, on peut dire des tendances. Mais dans ces fourchettes, on est capable de montrer aussi ce qui pourrait marcher et ce qui probablement ne marchera pas.
Espérons que vous soyez écoutée, Victoria Colizza. On s'en rend bien compte, vous êtes consciente de votre responsabilité, de vos limites hein, aussi. Autour de la question, jusqu'où peut-on modéliser les épidémies et comment le faire partout sur le globe? Puisqu'on l'a compris, hein, pour être au plus juste, ces modélisations doivent être au plus près de la réalité, des populations, des comportements. Je propose tout de suite un nouvel éclairage, donc vu d'Afrique, vu de Nairobi au Kenya. Celui d'Yvonne Mbourou, elle est chercheuse en immunologie et entrepreneuse, très investie dans le développement de la science et de l'expertise africaine à travers le Next Einstein Forum notamment. Yvonne Mbourou a fondé Nexakili, un réseau pour mettre en lien, regrouper les chercheurs, scientifiques, médecins du continent, un réseau qui a pris tout son sens, notamment depuis le début de la pandémie. Écoutez l'éclairage d'Yvonne Mbourou que j'ai joint par téléphone à Nairobi et vous réagirez ensuite, Victoria Colizza.
En fait, tout au début de l'épidémie, c'est-à-dire à peu près au mois de mars, début avril, moi, ce qui m'a beaucoup frustrée, c'était les projections de mortalité en Afrique. Parce que voilà, les données que nous avions à ce moment-là venaient principalement de la Chine et l'Asie et puis de l'Europe. Parce qu'en Europe, c'était dramatique, en fait, en termes de morts, notamment en Italie. Et donc, en fait, les gens faisaient ce raccourci, comme quoi il y a eu, je ne sais plus, là, 20 000 morts en Italie. Donc, en Afrique, on va projeter qu'il y aura 2 millions de morts. Mm-hmm. Et moi, j'étais très frustrée par ça, parce que ce n'était pas forcément basé sur des études chez les Africains ou avec notre mode de vie ou avec notre fonctionnement. Et un raccourci comme ça, bon, ok, peut-être que ça arrive finalement à être dans les unes des magazines, mais est-ce que véritablement ça va mobiliser des fonds, ça va mobiliser des personnes d'agir d'une certaine manière? Il faut quand même que ça soit basé sur une certaine réalité. Ce que j'ai voulu faire dès le départ, c'était de rassembler des scientifiques, parce que c'est quand même ce que c'est l'objectif de Nexakili, notamment ceux qui travaillent dans les domaines comme l'immunologie, comme moi, virologie, épidémiologie, mathématiques. Toutes ces études qui peuvent être au service de ce travail vraiment de fond, de regarder en Afrique, avec le mode de vie des Africains, comment est-ce qu'on peut anticiper la propagation du virus? Et est-ce que véritablement on aura exactement la même courbe qu'en Europe ou qu'en Asie, ou est-ce que les choses vont être différentes en fonction de différents pays, etc. La première difficulté était tout de suite les données. Avoir des données en Afrique, ce n'est pas facile. Ceci parce qu'on n'a pas forcément pris le temps de créer ces structures qui permettraient d'accéder facilement aux données. Mais ce que je dois dire, parce qu'on a fini par avoir quand même un groupe très intéressant, il y a eu des scientifiques qui faisaient partie de Next Einstein Forum, on a eu des scientifiques venant de tous les horizons qui sont situés partout dans le monde, mais principalement qui s'intéressent à l'Afrique. Et on s'est divisé en sous-groupes, et donc il y a un sous-groupe, par exemple, qui s'est beaucoup intéressé par la diagnostic et les méthodes de test pour faire en sorte qu'il y ait quand même, chaque fois qu'il y a un développement, que ce soit facilement accessible dans les pays en Afrique. Et puis moi, comme je m'intéressais énormément à la modélisation de ce virus, moi j'ai rejoint un autre sous-groupe qui était beaucoup plus axé sur la modélisation. Et donc, le but de ce travail-là, c'est qu'on a fini par avoir un financement assez important pour travailler avec une université, d'ailleurs une université américaine, mais qui est basée au Rwanda, pour véritablement suivre l'évolution du virus et puis de donner les conseils et des recommandations aux décideurs concernant, attention, la virus est en train d'aller à la hausse, attention, là, il faut qu'on n'oublie pas ces secteurs de l'économie, parce que, vous savez, en Afrique, le risque qui existe aujourd'hui, c'est que les effets néfastes sur d'autres aspects de l'économie soient pires que les effets sanitaires. Et donc, il faut qu'on arrive effectivement à avoir l'équilibre quand on regarde l'évolution du virus, non seulement sur le système sanitaire, mais aussi sur l'économie plus généralement. Et donc, moi, je suis très fière de ce travail-là parce qu'on était organisés, mais c'était à l'instant où on avait vraiment besoin des scientifiques, qu'on est tous arrivés au rendez-vous, etc. Mais qu'on a fini par avoir chacun des collaborateurs internationaux et puis finalement décrocher des fonds pour pouvoir aller faire un travail vraiment de fond dans différents pays. Ça, c'est quelque chose auquel je suis très fière.
À juste titre, parce qu'au fond, c'est de développer une véritable expertise africaine pour l'Afrique.
Oui, mais il s'agit de s'intéresser vraiment à la mode de vie. Vous savez, quand on regardait par exemple les données de Google, les données sur la mobilité des Africains, voilà. Mais c'est surtout la mobilité par voiture. Mais on sait très bien qu'il y a une grande partie des Africains qui sont mobiles, mais qui n'utilisent pas des voitures. Bien Donc, sûr. Il faut qu'on s'intéresse au marché public. Il faut qu'on s'intéresse à la façon en fait que les Africains bougent aussi. Et donc, c'est cette granularité. Ça n'arrive pas sans s'intéresser véritablement au mode de vie des gens et pas forcément sur la surface assez générale. C'est comme ça qu'on l'a fait aux États-Unis, c'est comme ça qu'on va le faire en Afrique. Il y a des villes en Afrique où, effectivement, suivre les données de mobilité venant de Google est très à propos. Mais il y a d'autres villes où ça n'a pas beaucoup de sens parce que, de toute façon, la mobilité, ce n'est pas énorme. Et donc, regarder ça, ça ne change pas beaucoup. Donc, je pense que c'est avoir cette granularité. C'est d'avoir d'abord des gens qui s'intéressent et qui viennent peut-être de ces régions-là, qui savent que, ouais, regardez Google, ça va quand même donner beaucoup d'informations. Il faudra qu'on travaille avec le ministère du transport, il faut qu'on regarde où sont les marchés publics, il faut qu'on ait un plan de ville et puis on puisse se poser des questions sur comment est-ce qu'on bouge, nous, les Africains.
J'imagine que vous voulez réagir, Victoria Colisa, à ce témoignage d'Yvonne Bourou depuis Nairobi au Kenya.
Oui, c'est un point super important. Et là, c'est par exemple un des limites des modèles, s'ils sont utilisés de façon trop théorique, pour ne marcherait jamais pour une réponse à une épidémie, au moins d'être vraiment nourri et investi dans les contextes qu'il étudie, parce que ça va changer. C'est pas seulement en termes des données qui, bien évidemment, doit être nourri des données locaux, mais c'est aussi vraiment de pouvoir interagir et parler avec toutes les personnes qui sont impliquées dans la gestion de la crise. À partir de l'épidémiologiste, mais aussi la personne qui a le réanimateur, etc. Tous ces rôles sont clés pour la compréhension. Et c'est ça, effectivement, que nous, on a fait en France depuis le début, donc la première vague. Et c'est plus complexe, donc c'est toute la limite de modèles qui sont pris, voilà, sur un certain contexte et puis appliqués sur un autre contexte sans vraiment regarder tous ces modes de vie qui sont différentes. On peut faire une hypothèse très très simple. Si on a par exemple deux pays qui ont la même structure profil d'âge, mais un pays a l'habitude de voir par exemple les grands-parents qui vivent à la maison avec les petits-enfants, ça va changer complètement les types de contacts et interactions avec les personnes qui sont plus à risque.
Bien sûr.
Si on les tient pas en compte, ça change. Voilà, on n'a pas un bon modèle, ça c'est clair.
Donc il faut les bons modèles, il faut cas par cas, on l'a bien compris, il faut comprendre ce qui se passe au-delà des chiffres, il faut élargir vraiment pour avoir non seulement des données, mais vraiment des réflexions et des retours de toutes les personnes qui sont impliquées. Est-ce que vous avez des explications, ou en tout cas des hypothèses par rapport, parce qu'on est sur le continent africain justement, où sont la majorité de nos auditeurs, un continent africain qui est tout de même, touchons du bois, assez épargné par la pandémie. Est-ce que les modélisateurs comme vous ont des pistes? Est-ce qu'on sait quelque chose, des hypothèses là-dessus, Victoria Colizza?
Alors, il y a des experts qui ont voilà, apporté un peu certaines hypothèses que pour l'instant ne sont pas encore tout validées. Il faudrait un peu comprendre. Bien évidemment, la première hypothèse est le profil d'âge. Il s'agit d'une population plus jeune. Puis il faut regarder aussi les facteurs des risques. Puis il y a une certaine hypothèse, par exemple l'hypothèse saisonnière, donc il fait chaud, température très élevée, et c'est pas seulement sur la transmissibilité du virus sur lequel quand même on a encore un peu d'incertitude là-dessus, mais ça pourrait être aussi un impacter le comportement même de personnes. Donc, vivre, par exemple, plus largement à l'extérieur, ou vivre avec une aération, par exemple, de locaux de ce type. Et puis, il y avait aussi certaines hypothèses d'un point de vue génétique.
Mais oui, dont on a parlé.
Oui. Et plus précisément, alors pas, je l'ai vu sur l'Afrique, mais récemment il y a eu un papier de Nature qui, par exemple, donc peer reviewed, c'est ça qu'il faut après regarder, donc validé par les pairs, qui montrait par exemple que les personnes en Bangladesh, ont, d'un point de vue génétique, sont plus à risque parce qu'on des marqueurs génétiques qui les met plus à risque de faire des formes graves. Et tout ça, après, a été validé, par exemple, en Angleterre, où il y a une certaine grosse population du Bangladesh, et même si on tient compte des conditions socio-économiques qui pourraient changer, des conditions de vie qui pourraient changer, ils ont été trouvés plus à risque, confirmant donc cette hypothèse des départs qui était une hypothèse basée sur l'analyse génétique.
Donc hypothèse génétique, hypothèse aussi, vous l'avez dit, du mode de vie, hein, l'air conditionné pourrait jouer aussi peut-être, enfin c'est une des hypothèses aussi.
Oui, et il y a aussi cette hypothèse. Par exemple, on a vu, alors nous en France, pendant l'été, on n'avait pas, tout en Europe, on n'a pas eu de grosses épidémies. On a vu aux États-Unis que pendant l'été, il y a eu directement une deuxième vague qui est partie sans même terminer la première vague, qui est montée très très fortement, même sur des états où il fait très chaud, parce que c'était on approchait l'été. Et là, une des hypothèses possibles, que cette personne sont restées notamment la plupart du temps dans les lieux clos avec la clim, et ça ça fournit des conditions de transmissibilité du virus, et donc de risques qui sont accrus, et ça on le sait bien. Alors ça, donc les modes de vie pourraient changer complètement. On a aussi, on a des évidences d'une outbreak, donc une épidémie qui s'est déclenchée dans un lycée en Israël au départ, après l'été, et tout ça parce qu'il y avait une vague de chaleur, donc ils ont fermé les fenêtres, ils ont mis la clim, les élèves n'avaient pas de masque, et il y a eu une outbreak, donc un nombre de cas qui a explosé très très rapidement. Donc, tout ça sont des éléments qui pourraient sembler voilà, un peu trop des détails, mais qui pourraient jouer un rôle très important.
Autour de la question jusqu'où peut-on comprendre, jusqu'où peut-on modéliser de la façon la plus réaliste possible, juste, la plus appropriée, les épidémies et la Covid-19. Finalement, il faut s'adapter, on s'en rend compte, et puis se remettre en question à chaque fois. Il faut donc de l'exigence, on l'a compris, Victoria Colisa, de la rigueur et une sacrée dose d'humilité et de persévérance. Vous n'en manquez pas, Yvonne Brou, qu'on a entendu, n'en manque pas non plus. Alors, on vous dédie à toutes les deux, et particulièrement à vous, Victoria Colisa, cette chanson Zingo de Céline Banza. Zingo en langue Ngwandi, en République démocratique du Congo, cela veut dire debout, lève-toi, courage. C'est pour vous, Victoria Colisa.
Zingo mota mose akpare ao ndomo ma o me asi ndomo azimende uniwe. Zingo mota mose akpale ao ndomo ma o me asi ndomo azimende uniwe anoli legige na ngono takaya betoma kaya toma na longoma lingono te mozo baso tenda mo zingo 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 batanya temo zingo batanya temo. Zingo, zingo, batanya temo. Zingo, batanya temo. Zingo, batanya temo.
Zingo, extrait du premier album de Céline Banza, prix découverte RFI 2019, un morceau qui célèbre le courage et la persévérance, n'est-ce pas Victoria Colizza? Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, spécialisée dans la modélisation des épidémies, et que vous êtes sur le front, donc en première ligne, pour fournir les modèles les plus justes, les plus réalistes sur l'évolution de cette pandémie. Pour le moment sans fin. Alors, quelles sont vos projections, Victoria Colizza? Vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas une voyante, vous ne voyez pas ce qui va se passer, mais quelles sont vos prévisions? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on peut en être? On a bien compris que c'est au cas par cas. Alors, peut-être en France, et puis on élargit sur le monde, Victoria Colizza?
Oui, alors les regards sur la France, bien évidemment, un peu plus précis, parce qu'on a accès à énormément de données, donc on travaille sur la France depuis longtemps. Ce qu'on voit aujourd'hui est qu'il y a cette croissance très forte de variants britanniques, d'autres variants aussi, mais en particulier celui du variant britannique qui a été estimé en France avoir une augmentation de la transmissibilité de 60%. Donc inévitablement, ça va bien évidemment créer une pression sur la circulation que les mesures qu'on a jusqu'aujourd'hui. Pour que ces mesures devraient être renforcées au jour au jour, dans le sens que les variants n'étaient pas dominants. Par exemple, en janvier, on est parti avec 3,3% en 7 janvier, estimé par les enquêtes Flash. Dans les mois de février, on est passé à avoir plus de 50% des cas dus aux variants anglais. Alors que les mesures qu'on a mises en place dans les mois de janvier, février, sont des mesures qui, forcément, dans les temps, ne vont pas avoir le même impact de ralentissement. On se trouve, en gros, si on peut faire une analogie, une voiture qui est en train d'accélérer, et nous, on ne peut pas utiliser toujours le même freinage. On doit adapter le freinage à cette accélération du variant, d'où exactement au variant.
Et donc il faut moduler, il faut changer nos réponses et il faut faire vite, en France en tout cas.
Oui, il faut faire vite. On a eu quand même de la chance dans le sens qu'on a en France les vacances de février et qui nous ont aidés à ralentir l'épidémie. Et donc couvre-feu et vacances scolaires nous ont vraiment aidés à faire reculer la souche historique, mais en même temps, ce n'est pas assez forte pour faire reculer aussi les variants britanniques. Et toutes les données qu'on a aujourd'hui nous montrent assez bien, avec des résultats qui collent très bien avec les modèles aussi, qu'il y a cette croissance du variant britannique et aussi des autres. Mais le plus inquiétant aujourd'hui est ce variant britannique qui a cette augmentation de transmissibilité si forte. Et qui d'ailleurs a aussi des augmentations d'hospitalisation qui ont été estimées en Danemark et qui pourraient aussi créer des problèmes supplémentaires dans la gestion sanitaire.
Donc on l'a compris, il faut aller plus vite. Vous intégrez aussi évidemment la vaccination, même si on ne sait pas encore quels effets ça peut avoir dans vos modèles, Victoria Colizza.
Oui, on intègre la vaccination. On a récemment, donc ces deux dernières semaines, on a eu énormément d'études qui sont issues d'Israël, de Royaume-Uni, où la vaccination a été pratiquée de façon massive. Et donc, il nous donne sur le terrain les efficacités de la vaccination estimées en vraie vie. Et sont des efficacités qui sont très élevées. On commence à voir des premières estimations aussi sur une réduction, par exemple, de la transmissibilité. Alors là, on reste encore très très prudent, mais il y a plusieurs façons pour que ces vaccins pourraient nous aider dans la lutte. Alors la clé, par contre, est de vacciner très rapidement énormément de gens, parce que le virus est trop contagieux pour avoir un pourcentage de vaccination faible qui pourrait nous suffire.
Donc accélération dans tous les domaines, on l'a bien compris. Victoria Colizza, merci de nous avoir accordé une heure de votre temps si précieux. Vous revenez quand vous voulez pour partager vos modélisations sur la pandémie de Covid-19. Merci Victoria Colizza d'avoir été en direct, en ligne avec nous. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast sur toutes vos applis et sur RFI Pure Radio. La semaine prochaine, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, C'est Simon Rosé du service Sciences de RFI que vous retrouverez à ce micro, chers amis auditeurs, pour partager toutes nos interrogations possibles et imaginables. Merci pour votre interactivité, pour votre fidélité et pour votre curiosité. Surtout, prenez soin de vous et des autres, où que vous soyez sur la planète. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.
Sur RFI, vous m'en dites.